Ben oui, c'est tout à fait normal, puisque ben, la rivalité, elle naît en général au moment où il y a un deuxième enfant qui apparaît dans la famille, et puis qu'elle y est finalement à la peur de cet enfant qui accueille un petit frère, et avec la peur de ce rival qui vient tout d'un coup prendre du temps, de l'énergie et de l'amour dont il avait avant en exclusivité, et tout d'un coup, ce temps devient partagé, cet amour devient partagé, et ben, l'enfant peut vivre la présence de son petit frère ou de sa petite sœur ben, comme une menace à cet amour des parents.
Cette rivalité, elle concerne toutes les familles ou il y a des configurations plus propices ?
Alors, je dirais de manière naturelle, ces rivalités, elles naissent dans toutes les familles, au moment où, bien sûr, où il y a deux enfants dans cette famille. Et je dirais que ben, peut-être les familles nombreuses, ben, ça demande davantage de vigilance des parents, puisque plus il y a d'enfants, plus il y a d'attention à avoir aux besoins de chacun. Et c'est vrai que les rivalités peuvent être peut-être un petit peu plus nombreuses dans ces familles-là. Mais je pense également peut-être aux familles recomposées, qui, c'est vrai qu'au moment où il y a des fratries qui se réunissent et puis qui jouent sur le territoire de l'autre, ça peut provoquer effectivement des rivalités aussi assez aiguës du fait que ben, les enfants qui cohabitent ne sont pas forcément frères et sœurs. Et ça peut être un sujet en plus qui vient aiguiser ces jalousies et ces rivalités.
Ça arrive à tout âge, ces rivalités, ou alors, je ne sais pas, si on a un premier enfant qui a 7-8 ans, avec qui on peut discuter, avoir un discours raisonné, plus ou moins rationnel, lorsque son petit frère ou sa petite sœur va arriver, ça sera plus facile que quand on a des enfants qui ont, 18 mois d'écart, ou peut-être qu'on a moins conscience du fait que l'arrivée de ce petit frère, cette petite sœur, ça va beaucoup occuper nos parents.
Voilà, mais je pense qu'effectivement, avec un enfant qui a déjà un développement cognitif, qui va pouvoir effectivement avoir une réflexion, on pourra avec des mots peut-être davantage expliquer. Mais il ne faut pas oublier que la rivalité, c'est d'abord un sentiment, une émotion, et qu'un enfant de quelques mois, voire de quelques années, va déjà pouvoir vivre cette émotion sans forcément pouvoir effectivement mettre des mots, des explications dessus.
Et est-ce que les enfants expriment leur jalousie ou leur rivalité, ou alors il faut deviner que derrière un comportement problématique se cache ce genre de souci?
Alors, ben, je pense que cette rivalité, elle peut, bien sûr, elle peut se voir dans le comportement d'un enfant, mais aussi dans les paroles. Bon, je prends par exemple l'exemple d'un petit bébé qui est tout chou, tout rose dans son berceau. À qui viendrait l'idée d'aller mordre ce bébé? Sinon, le petit frère qui est jaloux du temps que ce bébé prend à sa maman, etc. Et va, par exemple, par une morsure, une griffure, ou une attaque, par exemple, de ce type-là, attaquer cet enfant qui devient dangereux sur son territoire.
Quel problème est-ce que ça peut entraîner, alors, du coup, à long terme?
Alors, je dirais que les rivalités peuvent devenir inquiétantes du moment où l'enfant commence à se percevoir moins aimé, moins apprécié, moins performant, par exemple moins intelligent que son frère ou que sa sœur. Et je dirais que ça devient dangereux du moment où ça perdure dans le temps. Et puis, sur la durée, effectivement, ce sentiment attaque l'estime que l'enfant a de lui-même. Et puis, on sait que l'estime de soi est un élément assez majeur dans le développement de l'enfant.
Donc finalement, la rivalité, c'est normal, ça existe, mais il ne faut pas l'entretenir, il faut que les parents agissent pour ne pas entretenir cette rivalité. Il ne faut pas qu'elle s'installe dans la durée, c'est un peu ça le message.
Voilà, mais effectivement, les parents, je dirais que sont effectivement attelés à une tâche terriblement difficile, c'est celle de trouver le moyen d'assurer à chaque enfant qu'il est en sécurité, qu'il est exceptionnel et qu'il est bien aimé. Alors c'est vrai qu'en tant que parents, nous pouvons accentuer la compétition entre nos enfants, mais on peut aussi l'atténuer. On peut aussi faire que nos enfants n'expriment plus leurs sentiments hostiles qu'ils ont face à leur enfant en disant « mais non, t'oses pas dire que t'aimes pas ton frère, parce que c'est un beau petit bébé, il est gentil ». Ou on peut lui permettre de les exprimer en toute sécurité en disant « ben voilà, je vois que tu n'aimes pas ton frère, que, qui peut être dangereux pour toi, et que, etc. Et rejoindre simplement l'enfant dans son sentiment. On peut aussi être capable de susciter leurs disputes, ou bien au contraire, d'essayer de leur donner des outils pour qu'ils coopèrent davantage ensemble et qu'ils arrivent à négocier un certain nombre de choses pour résoudre peut-être des conflits aussi. Donc, je dirais que nos attitudes et nos paroles sont souvent très puissantes.
Les parents, ils ont un rôle dans la naissance et peut-être surtout dans la poursuite de ces rivalités. Prendre le grand comme exemple vers le petit en disant « Regarde ton frère ou ta sœur, lui fait juste et toi tu fais faux », c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte de l'influence et de l'impact qu'elles vont avoir sur un enfant.
Effectivement, c'est vrai que le fait de valoriser, par exemple, le comportement d'un enfant en le comparant à son frère ou à sa sœur, fait que cet enfant, il va se sentir malheureux vis-à-vis de son frère, de sa sœur. Ainsi, on dit, regarde ta sœur, comme elle écrit bien dans son cahier, toujours propre, alors que toi, tu fais
des ratures, t'es un vrai cochon,
etc. T'es un vrai cochon, voilà.
On l'a entendu, celle-là. Voilà.
Et puis, effectivement, le fait de faire des comparaisons comme ça, que ce soit des comparaisons défavorables à l'enfant, mais aussi favorables. Ah ouais, toi, t'es toujours à l'heure, alors que ton frère, il n'est pas fichu d'être à l'heure pour son cours de musique, par exemple. Donc, autant des comparaisons favorables que non favorables, mais peuvent mettre à mal à l'aise l'enfant, et puis entretiennent finalement cette rivalité. Hein, puisqu'au bout d'un moment, l'enfant qui sera toujours comparé inférieur va commencer à se percevoir comme une personne inférieure, et puis va commencer à en vouloir à ce grand frère ou cette grande sœur qui est si parfaite en tout, qui est louée par ses parents. Donc effectivement, cette rivalité, j'aurais envie de dire, elle n'a rien à voir contre sa sœur au départ, c'est plutôt un comportement, une communication que les parents ont eue, qui ont forgé cette rivalité, et elle va se focaliser bien sûr sur la personne de sa sœur. Et c'est aussi comme ça que plus tard, malheureusement, des conflits entre frères et sœurs, en étant adultes à ce moment-là, vont perdurer, voire se chronifier. Mais finalement, à la base, c'était simplement les liens familiaux qui ont peut-être dysfonctionné par rapport à ça.
Alors, vous venez de donner des exemples de paroles de parents qui pourraient provoquer des conflits. Alors, comment on fait pour améliorer les choses ?
Alors voilà, c'est justement un petit peu le sujet qu'on aborde avec les parents dans les ateliers. Si ça s'appelle atelier, c'est-à-dire qu'on va mettre sur la table quelques outils de communication. Et ces outils de communication, faut peut-être en dire un petit peu un mot plus général. On parle de communication bienveillante, c'est-à-dire que, et de communication consciente. Ça veut dire que la manière dont on communique avec nos enfants, on n'est pas toujours forcément très conscient des paroles et de l'impact des paroles que l'on va adresser à l'enfant. Moi, j'ai envie de souligner que le parent, fondamentalement, n'a pas de mauvaises intentions quand il communique avec son enfant. Le parent, à moins d'être malveillant, le parent, lui, va vouloir le bien de son enfant. Donc, l'intention est toujours bonne. Quand on parle communication consciente, c'est bien sûr de rendre conscient que certaines paroles, même si on ne veut pas qu'elles blessent, peuvent blesser, peuvent atteindre l'enfant, et peuvent, par exemple, entretenir ces rivalités, ces jalousies.
Justement, on n'imagine pas qu'il y ait des parents qui fassent exprès de mal communiquer ou de faire ça. Quels signes devraient nous rendre attentifs que là, on est peut-être en train d'encourager une rivalité sans s'en rendre compte ?
C'est ces signes, quand on entend des parents parler de leurs enfants, de les comparer entre eux, par exemple, de commencer à dire « Ah oui, mais mon aîné, c'est vraiment un petit intellectuel, il est brillant à l'école, tandis que le petit, lui, il est gauche, il est maladroit. » Par exemple, cette attribution de rôle qu'on a dans la famille, ça fait aussi partie d'un piège. C'est-à-dire que plus on est dans la famille, plus chaque enfant a son rôle. Et on commence à définir l'identité des enfants en disant celui-ci c'est un brise-fer, celui-ci c'est un terrible, celui-ci c'est un hyperactif, tandis que mon grand c'est un doux, c'est un tendre, etc. Et ça, les enfants dans ce discours-là vont commencer à s'identifier à ce rôle, croire qu'ils sont comme ça, et puis bien sûr s'enfermer petit à petit dans ce rôle-là, par exemple.
Mais en même temps, on sait que les enfants sont tous différents. On a beau, ils ont beau être issus du même nid, avoir reçu recevoir la même éducation, le même amour de leurs parents, les caractères seront différents. Donc quand on dit le grand il est plutôt comme ci, le petit il est plutôt comme ça, ça aussi peut-être montrer que chaque enfant est différent et puis qu'on les met pas dans le même moule.
Voilà, tout à fait. Maintenant, il y a une différence entre effectivement différencier nos enfants par rapport à ce qu'ils sont fondamentalement, puisqu'ils sont différents, de les enfermer dans un rôle, je dirais, favorable ou défavorable. Mais je dirais qu'il s'agit plus de l'attitude du parent, de plutôt répondre aux besoins individuels de l'enfant. Par exemple, au lieu de vouloir donner la même chose, hein, c'est-à-dire on va plus parler d'équité que d'égalité, par exemple. Hein, quand on parle de nourriture à donner ou... Voilà, l'autre jour, un parent donnait l'exemple, ben, quand un enfant dit « Ah ouais, mais t'as acheté une belle robe à ma sœur, et puis moi je voudrais aussi un habit, etc. » Ben, le parent, il a répondu « Mais je peux pas te donner la même chose, c'est un garçon, je pourrais pas t'acheter une robe. » Donc ça bien montre bien que l'égalité est une piste un petit peu dangereuse, mais plutôt de pouvoir traiter l'enfant dans ses besoins. Et c'est vrai que chaque enfant a des besoins différents, à des moments donnés aussi différents.
Laurent Jouvin, on vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints ce matin, malgré cette grippe qui vous embête.
Voilà, un petit peu, oui, merci.